En avril dernier, Emmanuel Macron demandait la création d'une convention citoyenne pour essayer de trouver des idées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Eh bien, c'est parti, puisqu'un tirage au sort de 150 Français a débuté hier pour cette convention. Ça va s'achever fin septembre, avant une première réunion début octobre. L'écrivain et cinéaste Cyril Dion en est l'un des garants. Il est mon invité dans un instant pour dialoguer avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de cette initiative qui vise à ouvrir le débat public sur le climat, 01 45 24 7000. Vos questions également sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Dans les autres rendez-vous de cette Terre au carré, Camille passe au vert. Et aujourd'hui, Camille...
Greta Thunberg et les vieux.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète, le reportage d'Antoine Lee avec ses portraits de jeunes engagés pour l'environnement et nos invités découvertes autour de l'exposition Nous les arbres, en ce moment à voir à la Fondation Cartier. Valérie Ayestaraï réalise cette tête au carré.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Ça y est, je l'ai dit. Hein.
Cette terre
voilà,
au carré.
Il
Mathieu.
Fallait que ça arrive pour la deuxième. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour Mathieu Vidin.
Bienvenue, vous êtes l'un des trois garants de cette convention citoyenne sur le climat initiée par le gouvernement. Quel est votre rôle exactement? C'est quoi un garant dans ce cas de figure?
Alors, c'est pas initié par le gouvernement déjà. Ça a été initié par un collectif qui s'appelle les Gilets Citoyens. Avec une première lettre ouverte au gouvernement au mois de janvier dernier. Où on proposait l'instauration de cette... Assemblée citoyenne tirée au sort, qui maintenant s'appelle convention, parce qu'apparemment, assemblée, ça passait pas très bien.
Ouais.
Et j'en suis l'un des garants pour avoir été l'un des membres de ce groupe des Gilets citoyens au départ. Ça va consister à vérifier que tout se passe de la meilleure façon qui soit pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc que le tirage au sort se passe dans les règles de l'art, que les gens ont le temps de délibérer, que les sujets qu'on va leur proposer d'aborder sont bien les bons pour répondre à la question qui leur a été donnée, que le président de la République respecte son engagement qui est de faire en sorte que ces propositions qui vont émerger de la Convention citoyenne aillent sans filtre au Parlement ou au référendum. Voilà.
Donc vous avez du boulot de surveillance. Bah, c'est un rôle de surveillant.
Oui,
au fond,
c'est ça. C'est un rôle de vigile.
Et si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui va se passer alors?
C'est pas comme je le souhaite moi, mais c'est comme on sait que ça doit marcher. C'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives qui ont déjà eu lieu de démocratie délibérative avec tirage au sort et référendum au bout, notamment en Irlande, notamment au Texas, etc. Donc on sait quels sont les processus qui fonctionnent. Si ça dérape entre guillemets. J'en parle d'abord à Thierry Pech et Laurence Tubiana, qui sont les coprésidents du comité de pilotage. Et si on trouve pas de solution, ben éventuellement je viens en parler publiquement, comme ici. Et puis si vraiment il y a aucune solution et que le processus va vraiment à l'inverse de ce qu'on a imaginé, je démissionne et donc je crée du fracas dans l'opinion publique.
Bon, on va suivre ça de très près, évidemment. Donc le tirage au sort a démarré hier. Beaucoup trouvent que ça sent le greenwashing de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui n'ont pas manqué d'arriver immédiatement à ce sujet-là?
Mais en fait, souvent, ce qui est assez drôle, c'est parce que j'en parle pas mal. J'en parle aussi avec les ONG que je connais bien, puisque j'ai dirigé moi-même une ONG pendant des années. C'est que ils disent certains vont dire c'est du greenwashing sans même savoir vraiment en quoi ça consiste. Quand on a entendu dire par exemple c'est un énième comité Théodule pendant une semaine tous les médias disaient comité Théodule c'était les éléments de langage préférés de tout le monde. Comité Théodule ça veut dire une espèce de comité de plus qui sert à rien, de gens qui se réunissent et qui sont dans un bureau qu'on a oublié au fond du couloir. Là en l'occurrence c'est pas ça. Là c'est des personnes qui sont tirés au sort comme dans un jury d'assises, qui vont formuler des propositions sous une forme réglementaire ou législative, donc directement applicable, et ces propositions vont aller directement au référendum ou au Parlement. Donc on peut pas faire plus concret dans l'action. C'est pas des gens qui vont se réunir pour discuter en vain. Et parallèlement à ça, quand j'entends aussi certaines ONG dire « on sait ce qu'il faut faire, c'est une façon de gagner du temps », mais en fait, on sait ce qu'il faut faire depuis 1979, je suis navré de le dire, hein, mais c'est le fameuse enquête du New York Times, 79-89, la décennie où on aurait pu sauver le climat. Si ça suffisait de savoir ce qu'il faut faire et de mettre un peu la pression au gouvernement en allant dans la rue, Ça se saurait.
Ouais. Est-ce que les Français s'intéressent en priorité d'ailleurs à la question climatique quand on les interroge sur leurs préoccupations autour de l'environnement et de la planète? Est-ce que c'est un des sujets qui ressort en premier aujourd'hui?
C'était la grande surprise des dernières élections européennes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, un des derniers débats qui a eu lieu avant les élections, Brice Teinturier est arrivé en disant on a commencé par sonder des Français sur les sujets qui les préoccupent le plus et on va commencer par ces sujets-là. Et les deux sujets qui étaient prioritaires, c'était changement climatique et pouvoir d'achat.
Alors comment vous allez travailler exactement avec ces Français? L'idée c'est d'obtenir finalement un panel très représentatif de la diversité aussi de la population française,
oui.
dans toutes ses composantes, avec des jeunes gens, des gens beaucoup plus âgés, toutes les couches de la société. Et donc l'idée ça va être de former les gens, de leur apprendre aussi la science finalement du climat?
Ils vont auditionner des scientifiques, des experts, des ingénieurs, pourquoi pas des économistes, pourquoi pas des agronomes, sur les différents aspects de la question climatique. Puisqu'aujourd'hui, on a évidemment un problème d'émission de CO2, mais plus largement, on a besoin de comprendre comment ces mécanismes-là émergent à la fois de nos modes de transport, à la fois de nos modes de construction, à la fois de notre gestion des déchets ou de notre non-gestion des déchets, à la fois de notre agriculture, à la fois de notre mode de vie, de ce qu'on mange, et plus globalement de notre modèle économique, c'est-à-dire d'un modèle économique qui a décidé d'utiliser les ressources naturelles jusqu'à plus soif, sans se préoccuper forcément des déséquilibres que ça pourrait créer dans les écosystèmes.
Et ils ont combien de temps, alors, les Français, pour se former tel un scientifique, quasiment, en essayant d'avoir le maximum de connaissances pour pouvoir juger et faire ses propositions?
Évidemment, ils vont jamais se former comme des scientifiques, ça ne deviendra pas des scientifiques, mais c'est vraiment... La comparaison avec le jury d'assises est assez bonne, je trouve. Quand on va juger un procès, on va essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants de la question pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Donc dans les premières semaines du travail de la convention, ils vont faire ces auditions-là et ils vont ensuite avoir 6 week-ends de délibération, à chaque fois de 3 jours, espacés par 3 semaines pour que pendant ces 3 semaines, les sujets puissent continuer à faire leur chemin dans la tête de chacun, que ces conversations-là puissent se passer aussi de façon informelle. Et c'est ce qu'on a appris des délibérations qui ont eu lieu dans d'autres pays et qui ont donné des résultats très intéressants, c'est que c'était le laps de temps nécessaire entre deux moments de délibération.
Cyril Dion, là aussi, on a finalement dans les demandes aussi des citoyens une nouvelle forme de démocratie qu'on essaye justement de mettre en place là en France. Ça, ce sont aussi des demandes très fortes. La société.
On l'a vu émerger beaucoup. Ce qui était très frappant, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que très rapidement, on est passé de revendications de pouvoir d'achat social à des revendications démocratiques, comme le référendum d'initiative citoyenne. Et ça, on le voit dans les sondages d'opinion depuis des années maintenant. Quand on regarde, par exemple, les sondages Ipsos qui sont faits à chaque fois au début de l'année et qui donnent une espèce de cartographie de la France, on voit que le décrochage entre les citoyens et les responsables politiques est incroyable. Chaque fois, on est de l'ordre de 80% des sondés qui pensent que les responsables politiques agissent principalement dans leur intérêt personnel plutôt que dans l'intérêt général. On voit aussi que la participation est quand même loin d'être satisfaisante aux élections, parce qu'il y a un sentiment de « on vote pour rien ». Si on vote pour quelqu'un qui nous fait des promesses, puis s'il remplit pas ses promesses après, qu'est-ce qu'on fait?
La neutralité carbone en 2050, ça veut dire quoi vraiment la neutralité carbone pour y parvenir et dans les faits aussi?
Là, en l'occurrence, la question qu'ils vont devoir traiter, c'est comment réduire d'au moins 40% nos émissions d'ici 2030. Mmh. Et le « au moins » est très important parce que c'est le compromis qu'on a obtenu avec le gouvernement, puisque... Moi, par exemple, je demandais plutôt moins 50 ou moins 65, puisque c'est plutôt ce type de chiffre qu'un certain nombre de scientifiques nous donnent. Ce qui veut dire arriver sans doute à une forme de neutralité carbone un peu plus tôt que 2050. Parce que l'accélération du changement climatique est telle qu'on risque déjà de dépasser les 1,5 ou les 2 degrés aux alentours de 2030. Neutralité carbone, pour l'instant, telle que c'est entendu, c'est équilibrer les émissions que nous continuerions à faire avec des émissions négatives, c'est-à-dire avec des puits de carbone. Donc les puits de carbone, aujourd'hui, ça peut être des prairies fortes en humus, ça peut être des forêts, ça peut être des mangroves, ça peut être des prairies marines. C'est quand même, en tout cas, se dire qu'on veut arriver à une neutralité carbone en 2050, il y a un côté dangereux qui est de se dire on va trouver des solutions technologiques d'ici là, donc on continue à émettre beaucoup dans l'intervalle et on trouvera bien des solutions. Alors que ce que le dernier rapport du GIEC nous dit, c'est qu'on a besoin d'entamer une courbe de descente de nos émissions très rapide. Et effectivement, qu'on puisse avoir des mécanismes d'absorption en plus, c'est très important. Mais ça n'est pas suffisant.
Vous qui nous écoutez, on aimerait savoir ce que vous pensez de cette idée de convention citoyenne pour le climat, promise donc par Emmanuel Macron. 01 45 24 7000, franceinter.fr et les réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on parle aujourd'hui d'un des personnages de l'été, même de l'année, hein, Greta Thunberg, qui est toujours à bord de son voilier direction New York, mais elle est pratiquement arrivée.
Oui, le 13e jour de navigation, il lui reste très exactement, c'est sous mes yeux, la carte 184 nautiques, c'est-à-dire 341 km à parcourir, arrivée prévue dans moins de 24 heures. On peut suivre le trajet donc du monocoque en ligne, on voit tous les courants, les vents, les vagues, c'est assez rigolo. Pendant que Greta Thunberg poste en parallèle des photos en mode « il fait beau, je dors, mange et regarde l'océan toute la journée » ou « je n'ai pas été malade », mais là, on la croit un peu moins, hein, d'autant qu'elle montre depuis hier les conditions météo très dégradées. Ça souffle et ça mouille. Bref, Greta Thunberg en route pour le sommet de l'ONU où elle compte bien dire une nouvelle fois aux dirigeants du monde entier qu'ils doivent se bouger pour la planète, ses aînés, qu'elle agace pas mal pour certains. Du coup, j'ai voulu savoir quel regard avaient nos vieux sur l'ado, mais pas nos vieux politiques, non, les autres. Vous, vous êtes retraités ?
On est deux vieilles retraitées.
Bon, ça c'est pour planter le décor. Maintenant, vous vous demandez bien sûr si déjà ils connaissent Greta Thunberg, ses retraités. Eh bien, ça dépend. Alors, si je leur montre juste sa photo, par exemple.
Je la connais pas.
Non.
Vous savez pas
non.
du tout qui c'est ?
Non, je sais pas qui c'est, non.
Elle est connue ?
Visage me dit quelque chose.
Moi aussi, mais... ça me dit quelque chose.
Elle a joué déjà au théâtre ou au cinéma ?
Alors non, et on ne la recherche pas non plus, comme me l'a demandé une autre dame. Mais alors là, quand je donne son nom... Je voulais savoir ce que vous pensiez de Greta Thunberg.
Oh, pas grand-chose.
Ah, mais vous savez déjà qui c'est ?
Ah bah oui.
Greta Thunberg.
Ah oui, c'est la petite norvégienne ou... oui, je crois qu'elle est norvégienne. Oui, c'est la qui fait, enfin, qui... qu'on a mise en avant pour défendre l'écologie.
Et bim, ça commence. Les critiques contre la Suédoise, hein, pas norvégienne, à l'origine de la grève de l'école pour le climat sont nombreuses. Vous avez certainement entendu les tendres surnoms de députés outrés cet été qu'elles viennent à l'Assemblée. Gourou apocalyptique, prophétesse en culotte courte ou l'inévitable ado manipulé.
Je ne suis pas convaincue de l'authenticité au départ de cette jeune fille.
Alors c'est un peu curieux. Je pense que ce qu'elle dit...
Oui, elle a, sur le fond, elle a raison.
Le fond, elle a raison.
Évidemment.
Mais pour l'instant, c'est de l'utopie.
Moi, je trouve qu'elle pose des bonnes questions.
Vous trouvez ça bien que des jeunes s'emparent du problème du climat ?
Bien sûr, que laisser les vieux croutons. Là.
Ah, Greta Thunberg a donc des alliés, y compris chez les plus âgés. Et le monsieur n'est pas seul.
Je trouve qu'elle fait du bon boulot. Hein. Elle a du cran.
Moi, j'aurais pas osé faire ça à 16 ans. C'est très bien.
Alors Josiane, assise sur son banc avec les copines, elle a plus de 5 fois l'âge de Greta Thunberg, 84 ans.
Vous savez, moi j'ai une piètre opinion des hommes politiques. Hein. Ils défendent pas du tout
la planète,
le climat. Heureusement qu'il y a les jeunes et que ça jaillisse sur la population qui est assez inerte.
C'est leur avenir, c'est leur planète. On n'a pas fait grand-chose pour protéger justement cette planète et c'est à eux de le faire.
C'est même leur devoir.
C'est leur devoir,
oui.
Alors pourquoi tant de haine contre Greta Thunberg ? Cette autre est née à sa petite idée qui vient de ce que représente l'adolescente.
Ça n'a rien à voir avec le discours des années 70 où on s'éclatait et tout ça. C'est même le contraire. Ça ne va pas être drôle. Donc elle représente quelque chose qui est loin d'être ludique et agréable.
Elle ne fait pas rêver, quoi.
Elle ne fait pas rêver. Ni jeune ni vieux, elle fait rêver personne.
Elle rebute ou mobilise, ils sont des dizaines de milliers de jeunes à marcher partout dans le monde le vendredi pour le climat. D'ailleurs, Greta Thunberg a lancé un appel pour une grève mondiale le 20 septembre prochain. Et nos vieux, alors, vous pourriez être avec eux dans la rue ?
Ah bah oui, oui.
Ouais.
Dans l'esprit, oui. Sur les jambes, c'est autre chose.
Le soutien moral, comme on dit. Cyril Dion, pourquoi il n'y a pas de vieux qui arrivent à mobiliser autant pour le climat ? Vous n'êtes pas très vieux, pardon, mais...
Pas si vieux ? Non, mais je me suis posé la même question, parce que quand Greta est venue à Paris la première fois, elle est venue avec les jeunes qui sont un peu leaders du mouvement en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. Et on était avec Yann Arthus Bertrand, Vandana Shiva et Juliette Binoche. Donc on était un peu les vieux, nous. Et en fait, les journalistes n'en avaient rien à faire de nous. Et il y avait 250 journalistes, on se serait cru au Festival de Cannes, ouais, avec des cordons, qui essayaient de les prendre en photo. Ils étaient 10 malheureux lycéens. Et donc, du coup, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais vous êtes où d'habitude? Pourquoi vous n'êtes pas aux marches pour le climat, etc.? Et donc, a priori, ce que je comprends, c'est que c'est une super histoire, quoi. C'est que le fait que ça soit des ados de 16 ans qui fassent la morale aux plus anciens, et surtout qui le fassent sans filtre, sans avoir l'air d'avoir des intérêts. Alors maintenant, on lui prête plein d'intérêts, se disant qu'elle serait manipulée par des agences de com en Suède, je ne sais quoi. En l'occurrence, on voit pas très bien à qui ça bénéficie là tout de suite, à part faire du papier, quoi. Donc aux journalistes peut-être, je sais pas.
En tout cas, Greta est aussi l'ami des vieux croutons, la preuve.
Absolument,
grâce à
certains,
vous,
en tout cas.
Camille Crenier. Allez, des vieux, des jeunes, c'est justement le panel de citoyens qui est actuellement tiré au sort pour la convention sur le climat. Posez vos questions à Cyril Dion, 01 45 24 7000 et la page de la Terre au carré sur franceinter.fr.
Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour descendre? Ça fait des mois que ça brûle, bientôt y aura que des cendres. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre? C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre. Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre, quelque chose doit glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Défait, défait. Défait, défait.
Hey. Les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble. Si on sait s'écouter, c'est qu'on n'a pas su s'entendre quand on a dû glisser. Pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre? Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre. Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende, quelque chose va glisser.
On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On ira bien quelque part. Se retrouver par hasard, défait, défait. On ira bien quelque part. Se retrouver par hasard, défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait.
Défait, c'était Julien Granel.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a une méfiance vis-à-vis des parlements, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des pouvoirs, parce que les gens se sentent exclus. Il y a, en anglais, il y a une très belle expression, c'est l'expression « a sense of theft », une sensation de vol, une sensation de perte. Et je pense que les citoyens ont perdu en quelque sorte leur mainmise, leur implication dans le gouvernement de leur société.
Voilà la voix de David Van Reybroek qui était dans votre film Demain, Cyril Dion, historien, archéologue belge. Alors peut-être une nouvelle forme de démocratie avec cette convention sur le climat. En tout cas, on en parle avec les auditeurs de la Terre au carré au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux. Alain est en ligne avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour monsieur.
Bienvenue. Votre question à Cyril Dion qui vous écoute attentivement.
Donc je vais essayer de faire bref. Déjà, je suis très content que suite au mouvement des Gilets jaunes, malgré tout ce qu'on a pu en dire, j'ai envie de dire la phrase « il n'y a que ceux qui font rien qui critiquent », mais qu'il y a une certaine motivation, une certaine dynamique, ça fait chaud au cœur. Moi, je suis jeune, je suis juste un citoyen lambda, je cherche pas forcément à faire fortune ou quoi qu'est-ce. Je cherche à vivre simplement et humblement. Et donc ma question, c'était pour savoir par rapport à la convention si le sujet de l'automobile pourrait être entamé, notamment dû au fait que les revendications du début de l'année c'était plutôt tourné vers à cause du prix du carburant. Et moi, je me demandais, j'avais envie d'exposer cette idée parce que on a beaucoup entendu qu'il y avait une mise en place de réformes concernant les vieux véhicules. Et ce qui me choque, c'est que quand je passe dans une grande ville, que je vois des grands parcs automobiles, ils sont remplis. Et on nous dit qu'il faut recycler les vieux véhicules, mais on n'a pas cherché une alternative en recyclant ces vieux véhicules et en faisant quelque chose.
Cyril Dion, votre réponse à Alain sur la question de l'automobile, ce sera un des thèmes des discussions.
Bah forcément, puisque les transports, c'est un des trois grands pôles d'émissions en France. Enfin, et un peu partout dans le monde, à vrai dire. Donc, la place de la voiture, combien de voitures en circulation? Parce qu'on a aussi cette question-là. Une étude qui a été faite là par un cabinet qui s'appelle BL Evolution disait si on voulait rester en dessous des 1,5 degrés, si on applique en fait la quote-part à la France, l'effort en France devrait être de réduire par deux le nombre de véhicules en circulation. Vous imaginez un peu le sujet.
Les Français sont prêts, à votre avis?
Ben non, je pense pas. Ouais. C'est-à-dire que je pense que si le gouvernement disait ça du jour au lendemain, il y a la moitié de la France dans la rue. Ouais. Comme ça serait encore pire que les Gilets jaunes. C'est toute la beauté du tirage au sort et d'avoir des personnes qui viennent de toutes les catégories de la société. C'est qu'elles puissent formuler des propositions qui soient acceptables et recevables par tous. Mmh. À la fois des personnes qui ont l'obligation de prendre leur véhicule pour aller travailler, à la fois des personnes qui prennent jamais de voiture et qui prennent des transports en commun, et que cette délibération permette d'arriver à quelque chose de juste pour tout le monde.
Merci Alain pour votre appel. Anna, beaucoup de messages également sur les réseaux sociaux.
Beaucoup de réactions, dont notamment deux questions qui se rejoignent de Nicole et Jérémy sur la page Facebook. Pourquoi ce tirage au sort de quelques personnes alors que des mouvements citoyens existent depuis des années? Pourquoi ne pas faire appel à des associations par exemple?
Parce que les associations sont, entre guillemets, partisanes. Enfin, c'est-à-dire qu'elles, évidemment, elles travaillent pour l'intérêt général. Et encore une fois, je le dis en toute connaissance de cause, puisque j'ai dirigé une association pendant 7 ans, qui s'appelle Colibri. Mais on est tous écolos. Donc on est tous d'accord entre nous.
Ah bon? Le problème... Les écolos sont d'accord entre eux. Bah alors ça, c'est nouveau.
Première nouvelle.
Ils ne sont pas d'accord dès qu'il s'agit de s'organiser pour prendre le pouvoir. C'est autre chose. Ouais. Mais en revanche, sur l'endroit où on a envie d'aller dans les grandes lignes, on est à peu près d'accord. Le problème qu'on a, c'est que le reste de la société n'est pas forcément d'accord avec nous. Là, c'est pour ça qu'on a 150 personnes qui sont tirées au sort, qui sont un panel représentatif de la France, pour toutes les raisons qu'on évoquait. Si on dit à tout le monde, voilà, il faut passer de 90 kilos à 25 kilos de viande par personne et par an. Et puis, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, c'est les associations qui l'ont dit. Est-ce que vous pensez que tout le monde va être d'accord? Si vous dites, il faut arrêter de prendre l'avion sur les vols intérieurs, parce qu'on peut prendre le TGV. Est-ce que tout le monde, tout d'un coup, va dire, c'est les associations et les mouvements citoyens qui l'ont dit, c'est bon, on le fait? Évidemment non. C'est donc pour ça qu'on a besoin d'espaces démocratiques qui sont des espaces délibératifs, et que cette délibération se passe pas que avec les 150, parce que l'idée, ça va être de médiatiser cet exercice-là, à la fois avec des partenariats, avec des radios, des télévisions.
Et on sent d'ailleurs la frustration de pas mal de nos auditeurs qui aimeraient bien, justement, qu'on les appelle, à tirer au sort. Alors, y a presque Hélène qui attend derrière son téléphone et nous dit sur quel créneau horaire les appels vont avoir lieu. La pauvre, elle a peu de chance d'être appelée, malheureusement.
En fait, il va y avoir 255 000 personnes qui vont être appelées. Ouais. C'est des numéros qui vont être générés de façon aléatoire sur les listes téléphoniques. 85% de numéros de portable, 15% de numéros de fixe. Et Ceux qui ne pourront pas participer directement pourront alimenter la Convention citoyenne avec des idées et des propositions sur le site de la Convention citoyenne ou sur le site des Gilets citoyens, giletscitoyens.org. Et ils pourront suivre les débats en direct aussi sur le site pour pouvoir savoir tout ce qui se dit.
Avant de prendre Patrice en ligne, Camille.
Vous parliez tout à l'heure que le processus fonctionnait à l'étranger, qu'il y avait eu des résultats, mais vous n'avez pas dit, qu'est-ce qui dit que là, même si c'est les citoyens, si c'est démocratique, à la fin, il y aura des, comme on dit, des résultats concrets, des vrais actes et pas un énième rapport ou des énièmes recommandations.
Pour l'instant,
qu'est-ce qui le garantit?
Pour l'instant, ce qui nous garantit ça, c'est la parole du président de la République qui a dit... les propositions qui émergeront de l'Assemblée citoyenne iront sans filtre au Parlement, au référendum ou à application réglementaire. Et donc théoriquement, tel qu'on organise les choses, le but c'est que ça soit la Convention citoyenne elle-même qui indique dans ses conclusions tel sujet, on pense qu'il doit aller au référendum, tel sujet, il doit aller au Parlement. Par exemple, la fiscalité, on n'a pas le droit de le traiter par référendum en France. Donc ça irait plutôt au Parlement.
D'accord.
Patrice, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre question rejoint d'ailleurs cette remarque de Camille. Hein.
Oui, tout à fait. Divers débats et commissions nationales ont bien souvent émis des propositions de bon sens qui se sont heurtées à la puissance des lobbies et leurs entrées auprès des gouvernants. Pourquoi en serait-il autrement avec la Convention citoyenne? Et ça rejoint justement la question de Camille sur le concret. Il faut être très très clair. Je prends un exemple très simple du débat de 2005, notamment sur la gestion des déchets nucléaires. Il y avait un choix entre l'enfouissement des déchets à Bure, que vous connaissez, ou l'entreposage en subsurface, solution qui paraissait la plus intelligente, mais balayée d'un revers de main sous la pression du lobby nucléaire. Et moi, j'invite Cyril Dion d'investiguer la réalité de terrain, comme l'a si bien fait le journal Les Jours. Une convention doit porter ses fruits et pas des fruits véreux. Et le seul fruit qui a mûri est un fruit véreux, ce que vous connaissez bien, c'est le projet CIGEO. CIGEO, ce n'est pas un centre géologique, mais pour résumer la situation, parce que c'est pas le sujet même du débat, c'est corruption, infiltration, garde à vue, enfumage, oppression. Donc vous parliez de filtre tout à l'heure, mais vous avez le filtre des députés, des sénateurs, notamment ici nous avons un sénateur Gérard Longuet qui est à la fois juge et parti dans la commission des débats publics. Comment voulez-vous que ça puisse aboutir à des choses concrètes? Honnête.
Alors,
on n'est pas du tout dans l'honnêteté, on est dans la malhonnêteté de nos dirigeants. Et je ne crois absolument pas ce que peut prétendre le président de la République, et d'ailleurs à l'image de tout ce qui s'est passé jusqu'ici.
Alors Cyril Dion, beaucoup partagent d'ailleurs le sentiment de Patrice hein, sur le doute, sur la puissance toujours des lobbies. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de tout ça? Et ça ressort aussi sur les réseaux sociaux.
Oui. Et encore une fois, en fait, c'est tout l'intérêt de cet exercice. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a besoin d'avoir de la démocratie délibérative avec des gens tirés au sort? Justement, parce que ce qui se passe d'habitude, c'est que on va consulter les citoyens, simplement. C'est le grand débat, c'est ce qui s'est passé avec le Grenelle de l'environnement, où on a consulté les ONG. Le gouvernement prend ces propositions-là et il en fait ce qu'il veut, exactement ce qu'il veut, en étant effectivement soumis à la pression des lobbies, mais en étant aussi pris dans des logiques électoralistes. Parce que l'idée, c'est de se faire réélire. Donc pour se faire réélire, il faut essayer de plaire à tout le monde. Donc des mesures radicales comme on aurait besoin d'en prendre aujourd'hui, on ne peut pas le faire si on essaie de plaire à tout le monde. Là, le but, c'est que ces gens sont tirés au sort. Ils n'ont pas d'intérêt à faire une carrière politique. Ils sont beaucoup moins soumis à la pression des lobbies. Et leurs propositions, encore une fois, le but est qu'elles aillent sans filtre au référendum. Donc qu'elle soit directement soumise aux Français qui disent oui ou non. Et quand ça va aller au Parlement, ben je vous invite, comme à tous, à intensifier les marches pour le climat, à intensifier la mobilisation citoyenne avec de la désobéissance civile, à interpeller vos députés, à aller mettre la pression de toutes les façons possibles pour que les députés aillent dans le sens de ce que leurs électeurs ont envie qu'il se passe.
Allez, il nous reste à peine une minute, Jean-Michel, on prend votre question très rapidement. Bonjour à vous, pour Cyril Dion.
Oui, bonjour. C'est tout simplement pour savoir comment les résolutions ou les propositions qui seront faites pourraient être prises en compte au niveau international, puisque agir uniquement au niveau de la France, ça ne suffira pas. Donc, est-ce qu'il y aura un impact sur le plan de nos relations internationales pour que d'autres pays puissent suivre la même voie?
Cyril Dion.
Le but, c'est déjà que si on obtient des résultats très intéressants pour la France, d'autres pays puissent s'inspirer de la démarche pour faire la même chose. Et ensuite, si la France prend des positions relativement courageuses sur le changement climatique. Le but, c'est que ça ait un impact en Europe, puisque la France est quand même un des pays leaders en Europe, mais que ça puisse aussi avoir un impact, comme on le voit là dans les réunions internationales, où la France puisse mettre la pression sur d'autres pays de façon beaucoup plus importante.
Bon, ben c'est à suivre tout ça, et on va suivre tout ça dans la Terre au Carré.
On va vous guetter.
Merci beaucoup Cyril Dion. Vos solutions pour le climat, ce sera juste après les infos. On sera en ligne avec vous, Antoine, vous nous appelez de Nantes, bonjour. Quel est le projet en deux mots dont vous allez nous parler ?
Bonjour Mathieu, bonjour l'équipe, bonjour les auditeurs. Alors, c'est tout simple, on va parler d'écologie positive avec la Run Eco Team, c'est une association. On allie votre bien-être et celui de la planète.
Les arbres, pour moi, c'est la manifestation de la vie que je trouve la plus sympathique.
France Inter, la Terre au carré.
C'était la voix du botaniste Francis Allais que vous entendrez si vous allez à la Fondation Cartier voir cette exposition « Nous les arbres ». On en parlera tout à l'heure avec une des commissaires de l'exposition, Marie Pérennes, et l'artiste Fabrice Hibert qui expose plusieurs tableaux et qui possède, il va nous le raconter, sa propre forêt. Juste avant, Antoine Lee nous proposera le portrait sonore d'Eliès. Il a 13 ans. Il essaye de convertir ses copains à l'écologie, mais pour le moment, c'est le rendez-vous. Vos solutions pour la planète. Antoine, vous êtes en ligne avec nous. Donc, vous êtes Nantais et vous allez nous parler de ce projet dont vous êtes l'un des bénévoles, ça s'appelle le Run Eco Team. Et Camille, qui court le marathon, a déjà mis son dossard pour vous écouter.
Je suis à fond, là, je vous aime.
Ah oui.
Bon,
bah, c'est super. Alors, les adhérents de Run Eco Team courent pour un monde plus propre. En faisant quoi exactement? Racontez-nous.
Voilà, alors c'est exactement ça. En fait, c'est une association donc, qui a été créée en janvier 2016, donc par Nicolas Lemonnier. Et le principe est très simple. On court tous, on fait des... Alors, beaucoup de gens, une fois qu'on court, on va publier sur les réseaux sociaux ses stats ou des choses comme ça. Mmh. Et il a eu l'idée, en fait, de... Il y avait un paquet de cigarettes qui était par terre. Et il l'a pris en photo en disant, ben, c'est pas très propre, on pourrait jeter. Il y a eu pas mal de réactions des copains. Et petit à petit, ça a commencé à faire un petit peu de monde. Il a créé un groupe Facebook Run Eco Team, donc Run Eco et puis l'équipe. Parce qu'on comprend souvent René Coty,
oui. Dans la troisième. Vous avez raison de préciser.
Voilà, mais quand je fais la blague, on ne comprend pas. Quand je la fais pas, on me l'a fait. Du coup,
non, mais c'est pour les vieux croutons, ça, c'est pour ça qu'il faut préciser.
Oui, mais je ne sais pas, c'est peut-être aussi avec l'écosystème un petit peu. Donc, sur le principe, il y a deux façons de faire un René Co. Soit on va le faire de façon individuelle, c'est-à-dire que tout un chacun, quand il fait son petit run, que ce soit du super marathon au Camille ou du petit runner du dimanche,
on ramasse.
On est tous, exactement. Et alors ça va être, en général, soit on est au début, lors de l'échauffement, sur les 200 premiers mètres quand on part de la maison, on va toujours trouver un petit quelque chose à prendre et à mettre à la poubelle. Soit c'est au retour, quand on est sur le retour au calme, même si on a fait un gros fractionné, pareil, les quelques derniers 100 mètres, on peut tout à fait, on regarde un petit peu, on trouvera toujours quelque chose à mettre à la poubelle.
Donc ça veut dire qu'on peut s'entraîner alors au milieu, mais on fait pas. Il y a des gens qui savent pas très bien courir, mais qui peuvent quand même partir courir pour ramasser les déchets.
Exactement. Et donc c'est là tout le côté sympa. C'est-à-dire que, alors Nicolas se plaît à dire, il a rien inventé. Mais en fait, c'est le côté systématique qui change tout. C'est-à-dire qu'avant, quand on passait à côté de quelque chose qui était un petit peu sale, normalement, ça heurte un petit peu l'œil, on ramasse. Mais là, ça devient systématique.
Oui.
Et dès qu'on commence à courir un petit peu, dans l'assaut, donc on essaie de courir plusieurs fois par semaine, et ben c'est autant de fois par semaine où on va ramasser à minima un déchet.
Oui, donc êtes devenu un vrai obsédé du déchet, finalement, et du mégot, Antoine.
Mais alors c'est exactement ça, et c'est rigolo parce que c'est contagieux et c'est exponentiel.
Ah, mon Dieu.
Au début on se met à ramasser un ou deux déchets, et puis après on voit plus que ça en fait. Et du coup ça devient un petit peu obsessionnel, mais c'est sympa parce que ça aussi ça fait changer en fait tes comportements au quotidien. Et c'est, enfin, on commence à faire. Moi j'ai commencé parce que Nico lançait l'association, je trouvais que l'idée était brillante. On a commencé à faire quelques sorties, et puis donc les sorties collectives, on se retrouve en fait, donc on est un peu plus de 60 000 dans le monde. Donc c'est mignon, mais ça essaie un petit peu. Et donc on est présent dans 108 pays au dernier recensement.
Il paraît que vous avez eu un petit coup de pouce de Mark Zuckerberg de Facebook, le patron de Facebook, c'est vrai?
C'est ça. Alors l'idée, en fait, le groupe est parti. Il y avait quelques centaines, vous êtes dans les 200 membres.
Et donc c'était sympathique, donc surtout Nantais, puisque local. Et c'est là où il y a vraiment le bon côté des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, il n'y aurait pas eu Facebook, on aurait été 200 et c'était très bien. Mais là, ça a commencé à grandir un petit peu en dehors de Nantes et puis d'Algorge, j'ai envie de dire. C'est venu aux oreilles d'une équipe, enfin, on ne sait pas si c'est Mark Zuckerberg en particulier, a priori on dirait que ce serait ça. Il a envoyé une équipe en fait faire une vidéo sur l'initiative. On a tourné ça en décembre 2015. Et alors c'était super sympa, il avait fait un froid terrible alors qu'il faisait tout beau avant, on avait ramené des copains, c'était très convivial. Et on nous dit, bon ben voilà, la vidéo est faite, on verra bien quand c'est publié. Et le soir de Noël, on a les téléphones qui se mettent à clignoter sans arrêt, alors, avec la belle famille, tout le monde, bon, c'est pas très poli. Et en fait, Mark Zuckerberg avait publié la vidéo directement sur son mur.
Donc c'était son cadeau, c'était le cadeau du patron de Facebook.
Une pub gratuite.
Ah, c'était un très beau cadeau. Ouais.
Antoine, comment on peut vous rejoindre? Parce que je sais que vous avez d'autres projets pour justement toucher les plus jeunes dans les établissements scolaires.
Et voilà, il y a beaucoup de projets différents, mais c'est vrai qu'en ce moment-là, on est en train de focus sur un projet qui nous tient à cœur, c'est la René Cotim Éducation. L'idée, c'est que pour faire évoluer les mentalités, on pense qu'il faut vraiment engager les jeunes générations. Et pour ce faire, donc l'an dernier, on a fait des pilotes donc avec un de nos ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, c'est des bénévoles, parce que tout le monde est bénévole dans cette association. C'est des bénévoles qui s'engagent plus que faire des René Cotim. Ils en organisent aussi. Donc Patrick Béchart, qui est notre super bénévole qui s'occupe de René Cotim Éducation, a fait quelques pilotes en région parisienne. Et donc comme chaque collégien lycéen va faire un cross une fois par an, ben, notre ambition, ce serait que chaque étudiant, chaque lycéen collégien fasse à minima un René Cotim par an.
Donc c'est la Run Eco Team Éducation que vous allez développer.
Voilà. Donc Run comme courir, Eco comme écologie, et Team comme équipe en anglais. Et donc là, on a validé on a validé la preuve du concept. Maintenant, le pilote étant validé, ce qu'il nous faut en fait, c'est recruter des enseignants qui sont motivés pour porter le projet.
Eh bien, vous êtes là et on est là pour ça, Antoine. S'il y a justement des enseignants qui nous écoutent,
ça tombe bien.
Voilà, on va pouvoir les mettre en lien avec les réseaux sociaux,
oui,
Anna.
Absolument, et aussi. Voilà. Oui, si vous êtes donc passionné d'environnement et si vous avez des idées, des initiatives comme notre ami Antoine pour l'environnement, venez échanger sur la page Agir pour ma planète.
Voilà, c'est la page Facebook également.
Et c'est une autre page Facebook.
Voilà, je suis sûr qu'il y a plein d'enseignants qui vont rejoindre Antoine pour l'aider dans son projet. Antoine, on n'a plus le temps, je suis désolé, on est très pressé.
Je donne un email.
Très vite, très vite.
Si vous voulez nous rejoindre, donc n'hésitez pas, education.runecoteam@gmail.com. Vous nous envoyez vos coordonnées, on vous recontactera. Et c'est super, on va modifier les mentalités, on va aller plus
vite. Eh ben, tout est noté. Merci Antoine et bonne journée à Nantes. Merci à vous, à bientôt. D'un Antoine à un autre. Antoine Lee est avec nous pour nous présenter cette semaine le portrait de plusieurs jeunes qui se mobilisent aussi pour l'environnement. Chacun d'entre eux mène des actions différentes. Aujourd'hui, c'est Eliès qui est à l'honneur.
Oui, on pourrait dire pratiquement qu'Eliès est un bébé écolo puisqu'il n'a que 13 ans. Il va au collège Balzac dans le 17e arrondissement de Paris et c'est à la suite d'un devoir sur la démographie qu'il prend conscience des problèmes concernant l'environnement. Et il a participé à plusieurs grèves de l'école en faveur du climat et il essaie également de sensibiliser ses camarades à l'écologie. Et juste avant les vacances d'été, il a mis en place un questionnaire pour savoir si leur école en faisait suffisamment pour l'environnement. Pour le retrouver parmi tous les collégiens, ça a été assez simple, car il porte toujours sur lui un masque anti-pollution.
Il y a les élèves qui sortent, donc on va commencer. Salut. Allô. Ouais. Non, je vais vous poursuivre. Faites gaffe, je vais vous poursuivre. En fait, c'est un questionnaire sur l'écologie à Balzac. Et ça dure juste une minute.
Ça va servir à quoi?
En fait, après, nous, on analyse vos réponses. Et comme ça, on pourra dire si dans l'ensemble, est-ce que les élèves sont contents du travail qui est fait par l'administration.
On va tous commencer à aller.
Mireille ! Eliès, toi, comment t'as pris conscience qu'elle a été le déclic de ton engagement pour le climat et pour l'environnement ?
Très vite, j'ai commencé à me documenter. J'ai vu des amis qui postaient des choses sur les réseaux sociaux. J'ai lu des articles, j'ai vu des photos. Lentement, j'ai commencé à grandir dans un mode de pensée où je me disais que je vivais dans un monde qui allait vers sa fin, en fait, tout simplement. Et du coup, que je devais réagir.
Bah souvent, quand on est jeune, on dit on a l'avenir devant soi.
Ouais, bah justement, nous, on l'a pas. Et c'est ça qui est stressant. Hein, et c'est pour ça qu'il devrait y avoir une prise de conscience. On est la seule génération, là, à vivre avec cette idée que c'est bientôt la fin. Comme toute la faune qui s'éteint en ce moment, bah, ce sera les humains.
Crois-tu que Balzac est un collège-lycée qui fait tout son possible pour limiter son impact écologique sur la planète ?
Non.
Ce matin, on a eu des assiettes en plastique à la cantine.
Salut ! Salut, ça va ? Salut ! Salut ! En fait, on fait un petit questionnaire sur l'écologie à Balzac.
Je trouve que Balzac ne fait pas assez de choses pour l'écologie, comme la France en général et le gouvernement en général.
T'aurais 2 secondes pour répondre à un questionnaire ou pas ?
L'écologie, je ne m'y intéresse pas vraiment.
Elias, t'as un masque autour du cou.
C'est ça.
Pourquoi ?
C'est un masque de chantier, tout simplement, en fait. Et ça filtre les particules les plus grosses, parce qu'en fait, moi, je prends le vélo dans Paris, et c'est tellement pollué que pour ma santé, je porte un masque. En fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à boire dans une, enfin, à faire des petits gestes au quotidien, comme devenir végétarien, porter un masque, boire dans une gourde au quotidien, voilà, pour éviter d'acheter des bouteilles de plastique. J'ai des petits gestes. En fait, ça va pas changer le monde, mais une fois qu'on se documente beaucoup, l'envie de manger de la viande, l'envie de consommer énormément de plastique, elle nous passe un peu.
Il y a un prof qui arrive, hein.
Il y a une prof. Bonjour madame.
Bonjour.
En fait, on fait remplir un questionnaire aux élèves et pourquoi pas aux profs sur l'écologie à Balzac.
Pas maintenant.
Non, c'est une minute. C'est
oui,
très court.
Une minute, d'accord, oui. C'est,
voilà, bah tenez.
Oui. Crois-tu que Balzac est un collège qui fait tout son possible pour limiter son impact écologique sur la planète ? Je dirais non, on peut faire mieux. As-tu participé à une grève marche pour le climat cette année ? Non, désolé.
Vous enseignez quoi, madame ?
J'enseigne italien.
Normalement, à l'école, ce sont les adultes qui doivent montrer l'exemple. Et là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, que c'est les jeunes qui montrent l'exemple aux adultes.
Mais c'est ça le changement. C'est très important. Changement climatique, changement des opinions, changement, c'est les élèves qui montrent aux professeurs. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils se mobilisent parce que les adultes ne le font pas assez. Et donc, c'est bien qu'ils commencent tout de suite, dès le collège, à le faire. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Bon courage!
Il est où le monsieur? Monsieur! Tenez!
Tu l'appelles monsieur, il a 13 ans. Hein.
Oui, mais je connais pas son prénom, du coup je dis monsieur.
Et vive l'écologie!
On a voté très honnêtement! Voilà.
Alors là, Elias, on a quitté ton école, on va où?
Là, on rejoint ma mère pour boire un café.
Bonjour, Antoine.
Ève.
Enchanté. Quand on est parents, on se dit pas, bah là là, mon fils il sèche, même si c'est pour la bonne cause, il serait mieux à l'école.
Je pense qu'on apprend autant en organisant une manif que dans une salle de classe. Planifier, mobiliser des gens, convaincre, développer des compétences oratoires pour argumenter son propos, tout ça, c'est des compétences extraordinaires. Donc je vois pas pourquoi je les opposerais au savoir scolaire, en fait. Pour cette génération-là, c'est vraiment une question de vivre ou survivre, quoi, ces questions écologiques. C'est pas juste ça m'intéresse, c'est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, lui et sa génération, ils sont confrontés à une vraie urgence.
T'aurais 2 secondes pour répondre à un questionnaire ou pas ?
Voilà, Antoine Lee. À quoi vont servir d'ailleurs les questionnaires d'Elias exactement ?
Elias va faire un bilan des réponses, puis il va l'intégrer à un dossier qu'il prépare pour la rentrée. Et il m'a confié que si les résultats sont négatifs, ce sera un bon moyen de pression pour que la direction en fasse davantage en faveur de l'environnement au sein de son école.
Voilà, on salue l'école Balzac, hein, on l'a bien cité.
Dans le 17e arrondissement de Paris.
Merci Antoine, demain, nouveau portrait avec vous. Et puis nous les arbres, c'est en ce moment à la Fondation Cartier. C'est une expo, on en parle dans un instant avec nos deux invités.
Yeah.
degrees. C'était Falls à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
D'abord l'arbre. Vous avez vu que sur ma brochure, j'ai mis au-dessus un dessin, qui est un dessin de Jacques Callot et qui représente un arbre, un chêne français. Nous n'avons pas, actuellement, dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Il faut donc développer notre politique de plantation.
Voilà, le président Giscard d'Estaing. Alors, il n'est pas dans l'exposition de la Fondation Cartier, mais c'est Camille qui nous a trouvé ça, justement.
C'était en 1977, et il avait annoncé la journée nationale de l'arbre qui a lieu au début du printemps.
Voilà, nous les arbres, c'est actuellement donc à Paris jusqu'au 10 novembre à la Fondation Cartier. Marie Pérennes et Fabrice Hibert sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marie Pérennes, vous êtes commissaire associée de cette exposition. Fabrice Hibert, vous êtes un des artistes dont on peut voir les œuvres, et on peut vous présenter même comme artiste semeur.
Absolument.
Vous avez beaucoup semé dans votre
vie. Semé, oui. Voilà. Entre autres des graines.
Entre autres des graines d'arbres, évidemment, dans une vallée vendéenne, c'est ça?
Absolument, oui. La vallée de mon enfance que j'ai achetée quand j'étais étudiant, qui fait une petite centaine d'hectares, et j'ai semé des centaines de milliers d'arbres.
Ouais. Vous avez acheté la vallée de votre enfance?
Voilà, le paysage de mon enfance pour protéger mes parents, parce qu'il y avait toute l'agriculture industrielle autour, ça me faisait peur avec les techniques, les pesticides et tout ça. J'ai dit, on va les protéger.
Et il y a beaucoup d'arbres dans cette vallée?
Il y a 500 000 arbres.
Ah oui, quand même. Vous les avez comptés?
Ça change tous les jours, malheureusement.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on y fait alors, dans cette vallée?
Pour l'instant, on se promène. Elle a 20 ans, cette forêt, donc elle est très jeune. C'est une forêt qui pousse, c'est une forêt inventée où il y a beaucoup d'espèces différentes, il y a beaucoup de fruits. Et mon idée, c'est de pouvoir manger le paysage.
Ouais. Et on peut manger vos œuvres aussi. Et il y a des fruits d'ailleurs. Il y a des cerises, il y a des pommes.
Il y a tout, des cerises, des pommes.
À la Fondation Cartier, on a de quoi se nourrir. Marie Pérennes, au moment où on parle tant de l'Amazonie en feu, le public se presse aussi à voir cette exposition. Moi, j'étais ce week-end. J'étais surpris d'ailleurs de l'intérêt. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de tout à fait différent qui se passe aujourd'hui dans la relation entre le public et les arbres. C'est vrai que ce végétal, en tout cas, s'est beaucoup popularisé ces derniers temps. Et vous en bénéficiez aujourd'hui directement quand même, hein.
Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, il est vrai qu'il y a un regain d'intérêt de la part de toute une communauté scientifique pour les arbres. Et on les replace aujourd'hui de plus en plus au centre de la communauté des vivants. Non pas comme des entités subalternes, souvent subordonnées aux animaux d'ailleurs, dans la hiérarchie des formes du vivant, ou des éléments de décor urbain inintéressant, mais bien comme des êtres vivants qui sont à l'origine de la purification de l'atmosphère qu'on respire et qui aujourd'hui sont essentiels à la vie humaine. Et c'est vraiment ce que veut dire nous les arbres. C'est à la fois une volonté de redonner la parole à ces géants, ces êtres millénaires.
C'est eux qui prennent la parole. Nous les arbres, c'est vraiment ça. C'est cette idée aussi.
Hein. Je trouve que ça sonne aussi d'une certaine façon comme un cri communautaire. C'est-à-dire qu'on redonne en effet la place aux arbres qu'ils devraient avoir au sein des vivants. Et puis en même temps, nous les arbres, c'est aussi donner la parole à une communauté de scientifiques et d'artistes avec lesquels on a collaboré pour cette exposition, qui tous sont émerveillés par la beauté, par les mystères aussi et les vertus des arbres, donc parmi lesquels évidemment Stefano Mancuso, ce neurobiologiste.
Il va loin d'ailleurs, lui, dans ses déclarations. C'est quasiment comme si l'arbre avait un cerveau. Enfin, vraiment, il fait des déclarations avec lesquelles les scientifiques ne sont pas tous d'accord, loin de là. Hein. Mais il prête quasiment une personnalité et une sensibilité de l'arbre.
Hein. En fait, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu énormément de recherches qui ont prouvé que l'arbre avait des aptitudes à la communication, des facultés sensorielles et également un système nerveux et une influence sur le climat. Ouais, et tout ça, en fait, c'est des échanges aussi qui ont nourri les artistes et les scientifiques de l'exposition.
Fabrice Hibert, comment vous percevez justement l'arbre, hein, quand vous travaillez?
L'arbre, c'était une chose où j'ai vécu dans les arbres depuis tout le temps, et en fait je me suis aperçu que l'arbre avait comme nous la capacité à s'adapter très très facilement. En fait, dès qu'il y a un problème, tout ça, il arrive à trouver la solution. Ou alors soit s'il se sent mourir, et ben il va faire beaucoup de graines pour pouvoir semer, enfin des tas de choses comme ça. C'est vraiment une force incroyable. Et puis ils sont tous différents. Un arbre n'est pas pareil que l'autre.
Mais jamais. Quand vous le dessinez, vous essayez quasiment de vous mettre dans sa peau, si on peut parler d'une peau.
De toute façon, dans son écorce. Quand je dessine quelque chose, par exemple, quand je me souviens, mes premiers tableaux, c'était la pluie, je me mettais à la place de la pluie.
Ah oui.
Et quand je dessinais la pluie, je la dessinais en spirale. Et en fait, on s'est aperçu dernièrement que la pluie tombait en spirale. C'était pas mieux. Hein. Ouais. Et en fait, l'arbre, c'est pareil. En fait, l'arbre, c'était ma façon de travailler. Je travaille, je suis sur la tronc. Comme ça. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, il y a des ramifications qui se tiennent dans tous les sens, tout ça. Et ben, ça fait un arbre.
Alors, on entend beaucoup parler des arbres depuis quelques années, quand même, presque comme un objet de mode. On entend aussi la sylvothérapie, je crois, enfin, quand on fait des câlins aux arbres. Est-ce que l'arbre, objet d'une exposition, ça en fait un objet de mode aussi? Et quelque part, ça vous arrange qu'on en parle?
Non, ça nous va. Disons que ça arrange tout le monde qu'on parle des arbres, parce que c'est quand même un sujet aujourd'hui éminemment politique et contemporain, surtout à l'heure de ces feux terribles qui ravagent l'Amazonie.
Mais comment vous avez eu l'idée?
Ah, comment on a eu l'idée? Bah, tout simplement parce que déjà, on travaille depuis très longtemps en faisant dialoguer des artistes et des scientifiques qui nous ont amenés à découvrir donc toutes ces facultés qu'on prête aujourd'hui aux arbres. Et puis aussi, il faut pas oublier que nous, à la Fondation, on vit dans les arbres, on travaille dans les arbres, puisqu'on
a ce jardin,
magnifique jardin, voilà, qui a été... et puis donc ce cèdre du Liban planté par Chateaubriand, l'écrivain, dans les années 1820, et autour duquel Jean Nouvel a construit tout ce bâtiment. Donc,
Alors, il faut parler de la collaboration évidemment des artistes sud-américains en particulier. Il y a des artistes du monde entier. Et Francis Allais, on a entendu sa voix aussi. C'est un botaniste, mais c'est aussi un artiste parce qu'il dessine très très bien les arbres. Et on voit ses travaux. Mais vous avez aussi des dessins que vous êtes demandé à des communautés amazoniennes, par exemple, et qu'on voit ici, qui sont extrêmement émouvants d'ailleurs.
Tout à fait. Dans l'exposition, on présente de nombreux dessins, alors d'artistes qui viennent de communautés Yanomami en Amazonie, ou qui sont aussi Nivaclé ou Guarani, et qui viennent du Grand Chaco au Paraguay. Et donc deux régions absolument dévastées aujourd'hui par la déforestation. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans ces dessins, on voit tout un écosystème qui se met en place, puisque plein de spécimens, différentes espèces d'arbres, sont mis en relation avec des animaux, et donc on voit bien cette symbiose avec la forêt dans laquelle vivaient tous ces artistes. Et aujourd'hui, malheureusement, cet écosystème, ainsi que la culture et les langues de ces communautés, sont menacées par la déforestation. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, abattre des arbres, c'est aussi condamner ces cultures et ces langues. Et d'ailleurs, Clemente Julius, qui est un des artistes donc du Chaco paraguayen, dit dans une interview qu'on a menée pour la Fondation qu'il dessine pour se souvenir, pour se rappeler, pour garder en mémoire cette forêt en train de disparaître.
Semer des graines, justement, c'est une façon de lutter dans l'autre sens.
Semer des graines, en fait, je me suis aperçu dès que j'étais gamin, il y avait des petits fruits, on vendait là-bas, qui s'appelaient les cormes, des tout petits, une sorte de sorbier. Et je me disais, mais pourquoi on ne sème pas ça? Et j'ai commencé à semer quoi, il y a 40 ans. Les cormiers qui ont maintenant quelques années, 40 ans.
Ouais.
Et en fait, quand j'ai acheté la vallée, au lieu de planter des arbres, je me suis dit, ça serait peut-être plus intéressant de semer. Personne ne semait les arbres. Personne ne semait les arbres de façon systématique.
Ouais.
Et on a commencé, puis au bout de 2-3 ans, on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous, chacun, un petit sac de graines.
Vous en avez là sur vous ou pas?
Pas là, j'ai laissé à la maison.
Semer un arbre, c'est facile en fait.
Ah, c'est très facile. Vous la mettez un petit peu à ça, d'épaisseur, de profondeur, ça peut être un noyau aussi. Et ben, vous verrez petit à petit, il y a des arbres qui vont. Si vous avez 100 graines.
On va faire ça au pied de la maison de la radio, parce qu'on a une petite forêt.
Si tous les Français avaient 100 graines par an, mais ça ferait 7 milliards.
Eh bien, on va s'y mettre. C'est une très bonne idée. On peut voir 3-4 de vos œuvres, Fabrice Hibert, dans l'exposition. 5.
5-6 même.
Oui.
6, il y a mon grand paysage biographique.
On voit Art et Science d'ailleurs, dans ce paysage. On voit la place de l'art et de la science dans votre travail.
Et c'est un tableau très long qui fait un mur, en fait, qui représente ma vie avec, et en fait, la vie comme un paysage. Et en fait, je m'aperçois que ça ressemble beaucoup à la Vendée, curieusement.
Et puis, impossible, 100 pommes, 1000 cerises.
100 pommes. Alors, c'était un dessin comme ça, une sorte d'allégorie avec un 100 pommes et puis qui tombe des cerises. Et en fait, c'est une référence aux cellules souches.
Voilà, donc on peut voir entre autres ce travail, des photographies, cet arbre aussi qui trône au centre de la salle principale, aussi, qui est autour duquel on peut tourner évidemment, et voir les œuvres des artistes sud-américains, et puis tout un espace aussi pour écouter la forêt, écouter les mots de ceux qui parlent des arbres. C'est en ce moment donc à la Fondation Cartier, c'est jusqu'au 10 novembre. Une dernière question à notre invité Fabrice Hibert-Camille.
Oui, qu'est-ce que c'est votre geste pas écolo des dernières 24 heures?
Parce que c'est bien de semer des graines, mais
que personne n'est parfait.
Pas écolo de venir ici en voiture, peut-être, non?
Eh ben voilà, c'est votre geste pas écolo de la journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anna, on retrouve les réseaux sociaux, bien sûr, tous ceux qui souhaitent nous laisser des messages.
Oui, absolument, donc continuez à réagir sur l'attaque et on attend aussi vos idées et vos initiatives à laterrecarré@radiofrance.com.
Denis Delbecq était et le rédacteur en chef de cette Terre au Carré, et on se retrouve demain. Merci Camille.
À demain.